Damen und Herren, in dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall.
Histoire vivante, proposé par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Час 23 по московскому.
À 1h23 du matin, heure de Moscou, je me trouvais dans la salle de commande du réacteur numéro 4. Lors de la réalisation de ce programme, au moment où on a appuyé sur le bouton AZ5,
cette semaine, Tchernobyl.
Le Kremlin s'efforce avec obstination d'apaiser les esprits. Officiellement, il ne s'agit pas d'une catastrophe. Pour Moscou, ce n'est toujours qu'un simple accident.
Vous et moi avons été contaminés par les éléments radioactifs de Tchernobyl. On en retrouvera sans doute encore des traces pendant 10, 20, 30 ans.
De l'explosion à la dissimulation.
Bon, il est d'abord nécessaire de préciser qu'actuellement, avec les systèmes de refroidissement et de sécurité à disposition, la centrale nucléaire de Mühleberg est sûre.
Ce type d'accident est impossible chez nous. Nos centrales sont plus sûres. À l'appui de ces affirmations, un mot magique, le confinement.
Nulle part ailleurs, les radiations n'avaient été aussi fortes, aussi longues. Nulle part, le nombre de facteurs radioactifs et non radioactifs n'avait été aussi grand.
Cette semaine, Tchernobyl.
Tchernobyl, pour moi, ça signifie une horreur. Ça signifie le mensonge déjà en place au gouvernement. Ça signifie une vie de galère.
Résultat, les conséquences médicales seront encore plus graves que ce que nous prévoyons aujourd'hui.
État et institutions déficients.
Ça signifie le mot cancer. Cancer dont je suis atteinte depuis 13 ans. C'est la galère.
Comment piloter, gouverner des sociétés devenues complexes? Peut-on, sinon avoir la main, mais mieux entendre, mieux apprécier un univers en forte turbulence? Ce sont deux questions, parmi bien d'autres, auxquelles notre invité d'aujourd'hui travaille depuis une trentaine d'années. Patrick Lagadec, vous aurez l'occasion de l'entendre, est sans doute un invité particulièrement recommandé pour réfléchir et tenter d'analyser à la fois le dossier Tchernobyl, qui vous sera présenté dimanche soir sur TSR2 dans le nouveau documentaire d'Histoire vivante, que bien évidemment sur les événements plus que contemporains se déroulant à Fukushima. Dans un instant, nous recevons Patrick Lagadec.
Il y a 25 ans, Otto Zöllner et 7 de ses collègues de Mühlhausen en ex-RDA avaient décontaminé de nombreux camions à la frontière entre les deux Allemagnes. Aujourd'hui, les collègues d'Otto Zöllner reposent tous au cimetière.
C'était mon chef. Il a été irradié. Et il a eu le cancer.
Krebs gekriegt, haben sie festgestellt bei ihm. Ich bin der letzte von den acht.
Je suis le dernier des 8 personnes préposées au nettoyage des camions. Tous mes collègues sont tombés malades les uns après les autres. Et on ne les a plus revus. Ils étaient à l'hôpital ou chez eux et ils dépérissaient jusqu'au moment où ils mourraient. Je suis heureux de ne pas avoir eu de cancer. Au bout de 25 ans, je crois pouvoir affirmer que je suis tiré d'affaire. C'est vrai que je disais déjà ça au bout de 15 ans. Mais maintenant, je m'en suis sorti, c'est sûr. Sinon, je serais déjà mort et enterré.
Rendez-vous sur TSR2 dimanche soir pour découvrir le nuage Tchernobyl et ses conséquences, le nouveau documentaire d'Histoire vivante, un film signé Karine Yurchif.
Histoire vivante, cette semaine, Tchernobyl. Aujourd'hui, entretien avec Patrick Lagadec, spécialiste de la gestion des crises majeures.
Patrick Lagadec, est-ce que je peux vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio suisse romande, s'il vous plaît ?
Oui, Patrick Lagadec, je suis directeur de recherche à l'École Polytechnique et je travaille depuis 30 ans sur les questions de risque. Ce qui m'a le plus intéressé, sur quoi j'ai porté mon attention, c'est les risques et les crises à partir du moment où elles sortent de leurs enceintes habituelles, c'est-à-dire que des enceintes dans lesquelles on a toutes les réponses.
Mais avant que vous alliez directement droit au but sur le sujet sur lequel effectivement vous réagissez, vous pensez, vous vivez depuis une trentaine d'années, et on comprend très bien la promptitude de votre réponse, seulement voilà, on vient à peine de faire connaissance, et comment on vient, comment vous en êtes venu particulièrement à ce concept-là, à le développer, à le travailler, c'est à l'issue de quelque chose, d'un événement particulier que vous pourriez peut-être nous raconter ?
On pourrait prendre une longue histoire, mais pour prendre un élément, je prendrais le Torrey Canyon, qui était la première marée noire que la France a subie, ou que la Bretagne a subie, parce que j'étais breton, en 67, ça nous ramène très très loin. Et ce qui m'avait frappé, c'est la première déclaration gouvernementale, c'était de dire le pétrole ne traversera jamais la Manche, parce que le pétrolier s'était échoué du côté britannique. Et donc la première déclaration, c'est que ça ne traverserait pas la Manche. Donc immédiatement, sur la côte bretonne, tous les pêcheurs, en gros, riaient un peu, sur le mode, ben, il n'y a pas de frontières, et les courants sont tels que ça va nous arriver. Et ensuite, lorsque le pétrole est arrivé, la deuxième déclaration, ça a été de dire, de toute façon, tout est sous contrôle, il n'y aura aucun problème. Et la troisième déclaration, c'est de dire, bon, écoutez, c'est grave, mais quand un enfant est malade dans une famille, on se tait et on taise le fait, donc taisez-vous, ça ira très bien. Donc j'ai vu une incapacité à anticiper, et plus que ça, des pathologies très fortes qui se mettaient en place, parce qu'on rentrait sur un terrain qui n'était pas connu. Et donc, comment on fait ?
Alors, vous le regardiez, vous, avec quel outil intellectuel d'approche par rapport à votre formation ?
Bah, à l'époque, j'étais un peu jeune, donc je n'avais pas d'outils particuliers, il y avait juste l'étonnement.
Voilà, l'étonnement.
C'est étrange, ouais. ils sont projetés, sans l'avoir voulu, sur un terrain où ils n'ont plus de boussole, plus de radar, c'est la feuille blanche, ils ne savent pas, et donc ils disent, rassurez-vous, tout est sous contrôle. Et ça m'avait immédiatement attiré l'attention sur le mode, ben non, c'est un terrain qui est appelé probablement à devenir important, et sur lequel ce genre de réaction est justement celle qu'il ne faudrait pas avoir, mais donc il faudrait y travailler. Et j'avais essayé de regarder dans les bibliothèques, c'était intéressant, quand on sortait le mot crise, il n'y avait que deux possibilités, c'était soit les crises conjugales, soit la crise de 29. Mais il n'y avait rien d'autre. Et c'est à ce moment-là que sont venus d'autres événements du type Seveso en Italie, Flixboro en Grande-Bretagne, Fezin en France, autant d'événements qui à chaque fois provoquaient une consternation, mais c'est pas possible, c'est sorti du petit jardinet dans lequel on avait toutes les réponses, et plus ça a été, plus je me disais, il faudrait y travailler.
Alors voilà, et en y travaillant, ça va finir par avoir un titre, une identité, ce concept qui s'appelle risque technologique majeur. Vous additionnez un peu, comme vous le faites là, des évidences, et vous dites, ben, c'est un objet qu'il faut apprendre à déplier, à mesurer, à entendre, à comprendre. Cela étant, quand on a dit risque technologique majeur, on a vraiment fait que l'intituler, car la nature même des risques liés directement ou indirectement à un accident technologique est extrêmement large. Donc, comment vous y prenez-vous ?
Oui, alors, ce qui m'est apparu immédiatement, mais il suffit de chausser des lunettes qui vont bien, c'est qu'à partir du moment où le risque sortait de l'enceinte industrielle, et ce qui était très clairement montré avec San Flixboro en Grande-Bretagne, dans lequel 90% des maisons sont touchées dans un rayon de 3 km autour, certes, il n'y avait pas eu un bilan vraiment catastrophique, mais ce simple fait, c'était très clair, quoi. Aujourd'hui, ça sort de l'enceinte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos calculs, enfin, nos logiques en termes, je pilote, enfin, je suis le seul maître, après Dieu, et encore à l'intérieur de mon installation, je dis que ça va bien et il n'y a pas de question à se poser autrement. À partir du moment où c'est ce que je disais, ça sort à l'extérieur, l'extérieur devient légitime à poser des questions à l'intérieur, donc ça pose des problèmes politiques. Deuxièmement, si ça sort vraiment à l'extérieur, ça pose des problèmes économiques et d'assurance, c'est-à-dire qu'on va jouer à tout à fait autre chose. Et donc, ça suppose qu'on y réfléchisse beaucoup plus profondément, mais surtout, c'est un autre objet. Ça devient un objet politique, alors au lieu d'être un objet seulement, comme on avait avant, de réglementation strictement technique de pour voir si à l'intérieur on applique les objets habituels. Mais on changeait de nature de problème. Et Céveso est arrivé par là-dessus. Et là, on a bien vu qu'on changeait effectivement de cadre.
On voit bien qu'une dimension, une micro-dimension historique a déjà pris son cap à l'intérieur de ce thème, puisque il est indiqué sur votre site. Vous rappelez que depuis la fin des années 70, c'est un petit groupe de pionniers qui essaye de faire mettre à l'agenda la question des risques majeurs, et que vont s'en suivre des quantités à la fois de publications, de colloques, de textes qui sont développés. Est-ce que quand vous indiquez ça, vous le situez tout de suite à un niveau qu'on imagine, mais on a besoin de votre affirmation là-dessus, international?
Oui, alors, il faut vraiment prendre en compte, ça se reflète dans ce que vous dites là, on est sur un terrain de découverte, d'explorateur, et pas sur un terrain habituel de « il reste quelques anomalies dans un champ de connaissances qui n'est pas totalement balisé, mais il reste, enfin, on a le champ qui a un an ». Là, on est vraiment sur un autre champ, et on est en termes de découverte. D'où ce qui est ressenti, une grande terreur autour de soi. Mais pourquoi vous allez là, quoi? Donc au début, ce me disait le général Ferroge à la télé, qui était l'ancien patron de sapeurs-pompiers de Paris. Il le dit clairement à la télé quand on se rencontre la première fois, c'était sur TF1. Il dit mais attendez, mais pour les industriels, vous êtes le diable. Pourquoi vous posez des questions pareilles, qui ne se posent pas d'ailleurs, puisque tout est sous contrôle? Donc c'était très très étonnant, et donc la carte qui était à jouer, parce que la France, pour parler en litote, n'était pas spontanément, immédiatement ouverte à ce genre de choses. Ce qu'on m'avait dit par exemple, c'est que l'action de Fezzin, on voyait plus trop à quoi je faisais allusion, qu'il voudrait mieux s'occuper de l'agriculture dans le nord, dans un champ peut-être, il y aurait peut-être un petit peu de problème avec quelqu'un qui aurait, je sais pas quoi, une faux qui marcherait pas. Immédiatement je me suis porté sur le terrain international, puisque les Britanniques avait fait une remarquable étude sur l'accident de Flixborough qui venait d'avoir en 1974 près de Londres, à 260 km au nord de Londres, que les Italiens venaient juste d'avoir Seveso, et dans le cours de mes études, peu à peu après, c'était Three Mile Island aux États-Unis. Donc à chaque fois, ça voulait dire, on va tout reconstruire, la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était pas trop sur la place publique, mais en allant voir les gens, en interviewant les uns et les autres, des responsables qui voulaient bien parler, des journalistes qui étaient autour, des maires ou des élus ou des citoyens ou des victimes, petit à petit reconstituer ce que c'était que ce champ un peu étrange. Mais il faut vraiment se mettre dans l'ambiance, hein. C'est Magellan qui sort de la Méditerranée et on lui dit « mais pourquoi vous restez ici ?» Puisque tout marche bien à l'intérieur. Et oui, mais je voudrais aller voir ailleurs. Mais pourquoi vous allez ailleurs? Et mon obsession, c'était justement que les vrais enjeux scientifiques, c'est en dehors de l'épure bien connue. Autrement, c'est peut-être pas la peine de faire de la science, il suffit de faire de la technologie et de répliquer ce qu'on connaît, quoi.
Petite pause dans Histoire vivante pour une autre histoire vivante. On retrouve à l'issue de la troisième étape du Tour de Romandie Pascal Turner à Neuchâtel. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour, ici à Neuchâtel avec la victoire de Vinokourov, Alexander Vinokourov, où s'est joué donc il y a un quart d'heure l'arrivée de cette troisième étape. Le Kazakh, qui est un des vétérans du peloton, a fait parler son expérience à 2 km de l'arrivée. Il a réagi à une attaque de l'Allemand Tony Martin. Cette accélération de deux des hommes les plus costauds du peloton a empêché les sprinters purs de s'exprimer ici sur l'avenue du 1er mars. Seul le Français Michael Chérel a pu se glisser dans leur roue en s'extrayant lui aussi du peloton. Mais malheureusement pour lui, Chérel n'a pas osé se glisser glissé entre Vinokourov et les barrières. Il a même déposé protêt au moment de franchir la ligne d'arrivée en levant le bras. Mais finalement, Vinokourov s'impose après décision des commissaires de course qui ont validé sa victoire malgré les protestations de Cherel. Et à notre avis, c'est une décision qui est juste parce que Alexander Vinokourov a gardé une ligne parfaitement droite dans ce sprint final. Le Kazakh prend donc la deuxième place au classement général avec désormais plus que 32 secondes de retard sur le russe Pavel Brut qui est toujours maillot jaune aujourd'hui. Et ce Tour de Romandie se jouera donc demain dans la quatrième étape, le contre-la-montre entre Aubonne et le signal de Bougie sur une vingtaine de kilomètres. Et il n'y a pas que Brut et Vinokourov qui puissent s'imposer. Et aujourd'hui au classement général, nous avons encore une quinzaine de coureurs qui sont dans la même minute. C'est dire que ce Tour de Romandie vit vraiment à l'heure du suspense.
Eh oui, le cyclisme, ce n'est pas qu'un monde de broutes. Merci Pascal, à demain.
À demain.
Histoire vivante, cette semaine, Tchernobyl. Suite de l'entretien avec Patrick Lagadec, spécialiste de la gestion des crises majeures.
Une chose est la légitimité que vous nous expliquez là, que vous nous rappelez. Une autre chose, c'est d'avoir, le cas échéant, la compétence pour au moins poser les questions adaptées. Donc dans ce travail de contre-expertise, vous y prenez comment pour vous mettre à jour sur tous ces sujets-là ? Vous avez déjà une formation et puis il faut vous mettre à jour au jour le jour, si j'ose dire, parce que ce sont des objets technologiques complexes à appréhender.
C'est à la fois technologiquement complexe, mais c'est pas ça le plus compliqué. C'est-à-dire que, bon, quand j'ai étudié Thomas Allen, je me rappelle très très bien, j'avais un ami qui connaissait très très bien ce genre d'affaires. Je lui faisais vérifier page par page tout ce que je pouvais écrire, parce que le nombre de bêtises qu'on peut dire sur un sujet pareil, quand vous n'avez pas la carte, vous pouvez aller n'importe où. Et là, la bonne idée comme la mauvaise, ça se côtoie ben, à cheveux près, quoi. Donc, cette extraordinaire volonté pour moi de faire vérifier à tout moment. Ce qui est de l'ordre de la pensée qui apporte de l'intelligence par des questionnements et ce qui est complètement stupide. Donc il fallait vérifier à chaque fois. Et ceci sur le plan technologique, économique, politique, enfin, il y a tout ce champ qui était pris en compte. Moi j'avais fait une école de gestion pour commencer, donc j'avais cette fibre managériale. Attendez, on fait comment ? Il ne s'agit pas seulement de décrire. Et puis après, une thèse en sciences politiques, donc c'était aussi, bon, est-ce qu'on peut prendre un peu, qu'est-ce qu'il y a comme intérêt, comme vue, comme valeurs qui sont dans le champ et qu'on pourrait regarder. Et également la dimension qui me semble extrêmement importante dans ce champ, qui fait très très peur en général, surtout ceux qui sont certains d'avoir toutes les réponses, qui fait très très peur, et la dimension psychologique. Et ça, c'est vraiment important. Dites-moi quelles sont vos défenses et vos refus, et je vous dirai les failles de votre système. Et il y avait aussi cette dimension qui était très très importante dans l'exploration.
Comment vous avez, vous, à titre personnel, Patrick Lagadec, comment êtes-vous avancé pour faire au fond ce que vous avez fini par faire, une description minutieuse, méthodologique de ce que c'est qu'une crise ? Comment ça s'étudie, ça ?
Comme je n'avais pas forcément des vertus théoriques absolument profondes comme Einstein ou d'autres, j'ai pris la voie d'aller explorer les expériences. Donc j'allais voir.
Avec un petit carnet, en prenant des notes
Oui, ou en lisant mais ligne à ligne des rapports. Il y a des rapports extrêmement remarquables. Le rapport que demandait par le président Carter à la suite de Thumbnail Island était un chef-d'œuvre. Le rapport sur Flixborough était remarquable. Et par exemple, pour vous donner.
Il n'y a pas d'ironie quand vous dites remarquable.
Non, c'est absolument remarquable. Il y en a d'autres qui sont complètement nuls, en général, ils ne sont même pas faits d'ailleurs, mais quand on se donne la peine de le faire, Flixborough, par exemple, ils disent le vrai sujet, on va mettre un S à Flixborough. C'est tous les Flixborough potentiels et c'est ça qui nous intéresse. Je trouvais ça, par exemple, une vue très intéressante. On nous dit, oh, ça, c'était une exception, donc ce n'est pas la peine trop de l'étudier, puisque, en général, ça marche bien. Là, ils disent, attendez, quelle est la règle générale cachée, peut-être, là-dedans ? Et c'est ça qui m'intéressait. Dans ces vaisseaux, j'ai passé des heures et des heures avec une députée italienne à reprendre entre les lignes tout ce qui pouvait être dit dans le rapport d'enquête et qui n'était vraiment pas clair, non seulement pour un étranger, mais pour un Italien qui n'était pas complètement au fait des enjeux plus ou moins clairs, des difficultés politiques et autres qui pouvaient donner lieu à quelques inflexions dans la rédaction du rapport. Donc il faut vraiment s'y prendre à 15 fois. Et en relisant, on arrive à trouver des régularités entre tous ces rapports et en disant, écoutez, là, je tiens un fil, je tiens un autre fil et petit à petit, je vais construire une carte pour explorer un peu ces terrains largement inconnus et sur lesquels les anxiétés sont telles que c'est plutôt l'aveuglement que la lucidité qui prédomine.
Et la part des règles communes ou des fils communs et des facteurs d'exceptionnalité, elle se met progressivement en place devant vos yeux ?
Oui, et ce qu'il faut dire quand même, c'est que, enfin, c'est peut-être un peu gros de dire ça, mais comme on est dans des terrains qui ne sont en général pas pris en compte, ou qui n'étaient pas pris en compte, dans lesquels l'aveuglement était très très fort, et des mécanismes de défense extraordinairement puissants, du genre, mais ne me dites pas qu'il y a un problème. Ou un directeur d'entreprise chimique, je me rappelle, qui avait dit, ici, j'ai un principe clair, c'est que personne ne parle sauf moi, et j'ai comme principe de ne rien dire. Enfin, c'était des choses d'une clarté énorme à partir du moment où vous voulez bien les entendre. Donc c'était pas très compliqué à identifier.
Oui, quand c'est aussi patent et manifeste, en effet. C'est...
Oui, et l'affaire de Flixborough, par exemple, c'est pas qu'il y avait une ou deux, et ces vaisseaux c'était pareil, une ou deux petits écarts par rapport à une norme, et donc ce serait vraiment du pointillisme administratif et de contrôle d'aller chercher ça. Non, non, c'était énorme. Il n'y avait pas d'ingénieur de sécurité depuis 6 mois, enfin ce genre de choses. Où on a des stockages qui sont 40 fois la norme autorisée. Enfin, c'était vraiment à la louche ou au tombeau, c'était pas à la petite cuillère. Donc c'est pas très compliqué à voir. Le problème clair, c'est est-ce que vous voulez ou non les voir ? Et bon, ça revient un peu à ce roman Le désert des Tartares, dans lequel il y a le responsable qui dit, écoutez, je vous interdis d'avoir des lunettes qui vous permettent de voir un ennemi qui ne serait pas totalement non conventionnel, donc je vous supprime toutes ces... Enfin, tout le monde devra remettre à son commandant de compagnie toutes ces lunettes non conformes. Il suffit de prendre des lunettes un peu ouvertes et les choses apparaissent assez clairement en général.
Alors là, Patrick Lagadec, vous entrouvrez déjà la porte suivante, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en effet que d'une étude, mais vous vous intéressez aussi à la question du traitement. Autrement dit, vous mettez au point quoi, une boîte à outils en vous disant, ou en leur disant plus exactement, à ces responsables, si vous acceptez d'entreprendre ou d'entrevoir ou quelques-uns des outils mis à disposition, il se peut que, sans une garantie d'un risque zéro, mais il se peut quand même que le pourcentage des risques soit minimisé. C'est ça, hein ?
Oui, en gros, si le terrain n'est plus celui qui était dans les années 40, il faut changer de lunettes. Sinon, c'est par miracle que vous n'aurez pas de problème. Et il est beaucoup plus responsable et beaucoup plus utile pour vous d'ailleurs, stratégiquement, de prendre ça vous-même en charge, plutôt que de devoir jouer les bourgeois de Calais en permanence sur le mode « on va vous faire expier le fait que vous n'êtes pas capable ». Il y a beaucoup plus de dignité à dire « oui, nous avons un problème, oui, vous avez 2 questions, j'en ai 3, on va poser, ça fait 5 questions, on va travailler ensemble avec vous pour faire au mieux ». Et c'est ça ma responsabilité, ma dignité de chef d'entreprise ou de ministre ou autre chose. C'est dans cette lucidité partagée que je fonde ma crédibilité et ma légitimité. Et dans un univers de risque majeur, parce qu'on est toujours aux limites par définition, seule cette posture m'apparaissait comme étant jouable à long terme.
Ça, c'est la réaction idéale, mais va-t-elle correspondre à la réalité que vous rencontrez ?
Dans tous les lieux où il y avait du répondant, c'est-à-dire en général des personnalités que j'adorais parce qu'elles étaient capables de dire « pas chiche, on va y aller », ça donnait des résultats fantastiques, c'est-à-dire que les risques, ils les anticipaient bien avant d'autres. En gros, 80-90% des problèmes qu'ils avaient été anticipés. La capacité de réaction immédiate, de correction ou de réaction s'il y a eu un problème grave est autrement plus efficace et plus rapide, plus adaptée que quelqu'un qui dit « bah non, il ne s'est rien passé, donnez-moi des preuves, attendons encore ». Et vous avez dans ce genre d'affaires en général une quinzaine de jours qui sont perdus. Par exemple, ce qui s'est passé avec le tsunami en 2004 en Indonésie, où c'est finalement Ian Eklund à l'ONU qui dit « Attendez, mais est-ce que vous pourriez vous réveiller ? Je sais que c'est le 1er janvier, mais enfin bon, on pourrait peut-être faire quelque chose pour... » Et finalement, le monde se mobilise, mais il a fallu que quelqu'un sonne la sonnette d'alarme Et ce que j'ai souvent constaté, c'est que des équipes ou des univers non préparés, la première réaction, c'est un aveuglement. La seconde, c'est on met sous le tapis. La troisième, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et la quatrième, on finit par sortir une stratégie qui n'est plus la bonne, parce que c'était la bonne il y a quatre jours peut-être, mais ce n'est plus la bonne. Et donc, on continue et on va transformer finalement un échec en conflits sociétaux généralisés, qui va pas donner grand-chose à la sortie. Autant éviter ce genre de choses et qu'on soit tous intelligents ensemble et en gérant au mieux nos risques.
Patrick Lagadec, vous êtes avec nous aujourd'hui pour réfléchir et nous donner à la fois vos analyses et puis également votre impression du prochain documentaire d'Histoire vivante qui est intitulé « Le nuage, Tchernobyl et ses conséquences ». Néanmoins, avant que l'on vienne à ce documentaire que vous avez regardé pour nous, je me posais la question, et je vous la pose au passage, sur les problèmes que vous pouvez rencontrer, vous, de manière annuelle, je dirais, en tout quotidienne et annuelle, sur la communication. Plus précisément, si l'on fait appel à vous, on fait souvent appel à vous au moment où il faut expertiser, au moment de la crise. Alors que vous êtes en train de nous dire, il faudrait pouvoir réussir à réfléchir tout au long, se mettre à jour soi-même tout au long de l'année. Alors, y a-t-il de ce point de vue-là, dans les médias, une plateforme d'émission ou que sais-je, qui permettrait justement de pouvoir parler de ça beaucoup plus à froid qu'au moment même où les événements ont lieu, quand on vous a demandé de réfléchir sur une évacuation de Tokyo dont vous nous parliez juste avant, on imagine que c'est en plein milieu de Fukushima. Voilà, donc on est au cœur même de l'émotion, alors que c'est peut-être en amont qu'il faut commencer à parler de tout ça. Patrick Lagadec.
Oui, vous touchez un point capital, c'est-à-dire que pour tout le monde, c'est un sujet qui n'existe pas. Ça n'existe pas dans le domaine scientifique et ça n'existe pas en matière de gouvernance. Puisque là, pour ça, évidemment, il y a quelques plans et le risque, de toute façon, est marginal, ça se posera très très peu, donc c'est pas la peine de se poser des faux problèmes et globalement, on reste optimiste, donc ça ne pose pas la question. Et au niveau médiatique, c'est pareil, les demandes qui sont en général 100 fois plus importantes que des demandes qui viendraient des autorités ou des responsables, puisque là, il y a en général, la situation difficile pour des gens non préparés se traduit, comme on le voit à chaque fois, par un refus de toute survenue extérieure, sauf en communication, par des agences de communication. Donc, c'est pas là que ça se fait, les demandes. Et en médias, effectivement, il y a des fenêtres dans lesquelles c'est toléré, en gros. C'est lorsqu'il y a un gros événement. Et là, on vous demande de donner quelques éléments. Et moi, mon éthique, à ce moment-là, c'est d'essayer de faire passer au-delà de quelques éléments sur l'événement chaud qui se produit, des compréhensions de fond pour être capable de développer une meilleure compréhension, connaissance, capacité face à tout ce qui est hors cadre et pour lequel on ne peut pas parler en dehors des événements graves. Mais effectivement, si on pouvait développer un peu plus avant, ce serait mieux. Mais le problème de tout le monde, c'est comment on peut caser ça avec suffisamment d'attention de la part des uns et des autres. Voilà, c'est une quadrature du cercle.
Vous avez reçu des propositions dans ce sens ?
De la part d'un média pour venir réfléchir à froid
régulièrement
régulièrement, non, pas du tout.
Non.
Ça, là, il n'y a rien. Mais ça reflète quelque chose de tout à fait général. Donc les médias ne sont pas en retard par rapport à d'autres. C'est un sujet qui est en dehors de nos limites habituelles. Et donc j'ai l'habitude de dire que dans les années 60-70, ce genre de question était totalement hors galaxie. Enfin, ça n'appartient même pas au système solaire. Dans les années 80, 90, 2000, c'était l'événement exceptionnel, donc on peut le faire, mais enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment un grand choc tous les mois que nous avons à enregistrer. Grand choc, pas de niveau de tsunami, mais un simple épisode de neige sur la capitale française, et vous avez immédiatement une situation de tumulte assez considérable, dans lequel même si on ne perd pas ses nerfs, on peut perdre beaucoup de crédibilité. Donc c'est un sujet qui existe, mais qui n'est pas reconnu en tant que tel. Ça reste dans nos esprits comme étant tout à fait marginal, et comme on a fait des progrès en communication dans les années 90, l'idée est restée que si on fait de la bonne communication, tout ça s'est résolu immédiatement, ce qui est un piège total, parce que c'est plus le sujet.
Dans les nouveaux problèmes liés à la communication, la question de l'inflation d'aujourd'hui est-elle prise en compte par vous et vos collègues? Il y a actuellement, effectivement, quand vous dites un épisode neigeux quelque part, si cet épisode neigeux pouvant poser un certain nombre de problèmes est relayé à l'infini par énormément de sources qui font du bruit là-dessus, c'est d'abord beaucoup de bruit ambiant à partir d'un événement qui peut être un événement, on va dire, de dimension moyenne sur l'échelle des risques.
C'est justement, le fond de la réponse à la question, c'était l'intérêt que j'avais à vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous avez des vagues qui viennent de tous les côtés, essayer de faire la chasse à chacune, ce n'est pas la bonne méthode. Et vous allez être enfoui très très rapidement par une somme d'informations qui ne vont plus faire sens et qui vont donner lieu à un rejet.
J'avais cru remarquer, en effet.
Et plus c'est compliqué, plus il faut apporter du sens fondamental, de la capacité stratégique. Et c'est ça qui est important. Comme on disait dans les années 90, ça serait tout à fait valable. Toute crise est une crise de sens et donc d'information. Et donc, ce qu'il faut rajouter immédiatement, c'est des ancrages, c'est des perspectives. Alors que si vous rajoutez 4-5 polémiques à la seconde, ça ne va pas être suffisant. Ce qu'on attend, je remarque beaucoup ça depuis le début de l'affaire japonaise, une immense attente du côté des meilleurs médias pour effectivement de la mise en perspective, de l'apport de sens, en sachant très bien que vous ne courez pas après un nuage de moustiques là, pour essayer d'abattre les uns après les autres. Vous n'y arriverez pas, on est sur d'autres registres. Et le vrai registre de réponse, je pense, aujourd'hui, c'est d'apporter du sens et des lignes à partir desquelles les gens et les uns et les autres peuvent travailler. C'est ça qui me semble le plus important.
Mais là, vous parlez donc d'une évolution favorable des mentalités ou des réflexes, alors?
Oui, tout à fait. Tout à fait. La capacité de prendre du recul, sans essayer de courir après, je vous dis, chacun des moustiques en essayant de les attraper. Et en s'épuisant et en disant à la fin, ben vous voyez bien, c'était un non-sens absolu, il n'y avait rien à faire, donc ce n'est pas la peine d'étudier, nous ne sommes en rien responsables. C'est juste qu'on m'a souvent dit, ben écoutez, vous ne croyez pas à la fatalité, donc acceptez la fatalité, il n'y a rien à faire, et ça va bien, et puis restez optimiste, ça devrait aller. Quoi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est totalement la démission de faire ça. Nous avons un devoir historique de faire face aux risques que nous avons créés et dans lesquels nous sommes.
Histoire vivante, cette semaine, Tchernobyl, suite de l'entretien avec Patrick Lagadec, spécialiste de la gestion des crises majeures.
Avant d'en venir à l'actualité d'hier, venons-en un moment à l'actualité d'aujourd'hui, la crise de Fukushima concernant la gestion de sa communication. Quand bien même ce centre de gestion de communication est un peu éloigné de nos frontières, comment l'avez-vous perçu, comment l'avez-vous analysé? Quels seraient les mots que vous pourriez nous dire là-dessus, Patrick Lagadec?
Toujours avec mon réflexe, quels sont les pièges là-dedans, dans ce que je peux raconter? Le premier énorme que j'ai toujours vu tout au long de ma carrière, c'est qu'on peut raconter beaucoup de bêtises tant qu'on n'a pas les informations. Parce que Céveso, j'ai travaillé des mois là-dessus. Et je vous assure, tous les mois, je changeais un peu de perspective. Donc, il faut être extrêmement prudent.
À mesure que les informations arrivent.
Voilà. Cela dit, ce qu'il m'a au moins ouvert des lignes de questionnement. La première chose que je me suis dit, on est sur un terrain nouveau, il y a eu un grand choc de séisme, ils ont été très forts sur l'aspect séisme, il y a eu une sidération sur l'affaire tsunami, mais ils ont quand même été forts pour faire des évacuations, ou plutôt des mises à l'abri réflexes extraordinairement rapides. Je ne sais pas quel pays au monde aurait été capable de faire ça. Et tout d'un coup, nous avons l'éruption de l'impensable, enfin l'impensable au sens habituel, à l'intérieur des cadres habituels, de cette affaire nucléaire. Et la réflexion que je me suis dit en voyant l'AIEA qui n'avait pas d'informations, les services de sécurité français qui apparemment, de sécurité nucléaire, apparemment n'en avaient pas beaucoup puisqu'ils n'arrêtaient pas de dire c'est du niveau 4 mais nous n'avons pas d'informations, c'est que quelque chose n'allait pas. Et que si on était vraiment très bien préparé, il y aurait eu au moins une personne en sécurité nucléaire au Japon qui aurait pu avoir un correspondant à Vienne pour donner immédiatement quelques informations à toutes les responsables de sécurité nucléaire de par le monde. On pouvait faire à moindre coût en termes d'énergie et de temps une information beaucoup plus forte. Mais à ce moment-là, l'autre question rebondit. Avait-il les informations? S'agissait-il d'une information non donnée ou d'informations qui n'existaient pas? Si elle n'existait pas, comment on pouvait la qualifier différemment? Tout de suite, je me suis posé du niveau de qualification du système à prendre en compte quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, la vraie question pour moi, comment était-il préparé au non-prévu? Et quand on n'est pas préparé, alors je ne sais pas ce qu'il en est, mais ce qui est sûr, c'est que quand on n'est pas préparé à l'imprévu ou à la surprise, il y a un temps colossal de blanc dans lequel il n'y a pas de réaction, de réponse, etc. Et donc, c'est les hypothèses que je me suis faites, mais après, faut vérifier. Mais apparemment, je n'ai pas été le seul à avoir ces hypothèses. Et je l'ai vu après arriver dans les médias. C'était les médias finlandais, puis les CNN qui a mis en cause ce genre de choses, puis les autorités, puis l'AIEA, et finalement le patron de l'AIEA disant « tout notre système est à repenser, il date de Tchernobyl, donc des années 90, nous sommes aujourd'hui dans les années 2010 avec Twitter, Facebook, etc. Donc nous ne sommes pas calés, nous avons une guerre de retard, il est temps de réfléchir à tout ça. Et c'est à l'image même de toutes nos crises qu'on vit aujourd'hui. À partir du moment où vous avez une crise en décalage, le résultat donne à peu près ce qu'on voit dans chacun des cas.
En France comme ailleurs, tous les relevés effectués ne seront pas rendus publics. Le physicien Bruno Charéron, membre de la CRIRAD, pense même que les valeurs publiées ont été falsifiées.
Donc en France, à l'époque, l'État a laissé croire qu'il n'y avait aucune contamination, alors qu'en fait, autour des centrales nucléaires, il y a des capteurs qui enregistrent la radioactivité de l'air. Le problème, c'est qu'en France, il y avait un service qui centralisait les informations sur la radioactivité, le SCPRI, et ce service a donné l'ordre aux centrales nucléaires de ne pas communiquer ces informations. Et vous voyez que EDF, la compagnie française, a très bien mesuré une augmentation très importante de la radioactivité de l'air. Le 1er mai 1986 en France, la radioactivité a été même multipliée par 10 000 sur certains capteurs.
En France, les responsables politiques veulent retourner aux affaires quotidiennes le plus vite possible. En Allemagne, la situation s'emballe. Les relevés se multiplient et il est désormais impossible de dissimuler la vérité. La pression sur le gouvernement augmente.
Le nuage était passé sur l'Allemagne. C'était un fait. Le pays s'est retrouvé confronté à une situation que l'État n'avait pas pu anticiper et face à laquelle les dispositifs d'urgence prévus en cas de catastrophe s'avéraient inefficaces. Le ministère de l'Intérieur publiait des consignes interminables. On passait des journées à les lire et à essayer de comprendre plus ou moins ce qu'elles voulaient dire.
Histoire vivante, cette semaine, Tchernobyl. Suite de l'entretien avec Patrick Lagadec, spécialiste de la gestion des crises majeures.
Alors Patrick Lagadec, vous avez regardé pour nous et on vous en remercie vivement. Le prochain documentaire d'Histoire vivante qui est donc intitulé « Le nuage, Tchernobyl et ses conséquences ». Karine Urchif, il est peut-être utile de pouvoir justement regarder au travers un documentaire les événements tels qu'ils se sont déroulés, tels qu'ils ont été gérés, tels qu'ils ont été pensés, tels qu'ils ont été communiqués. Qu'est-ce que ce film vous a inspiré, vous inspire comme commentaire, Patrick Lagadec ?
Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on est dans un autre univers, au moins que celui dont je viens de vous parler. On est dans les années 86 et je me suis posé la question, tout ça, ça fait sens. Quels sont les socles? Quels sont les ancrages? Quelles sont les visions des gens que nous voyons là? Ils partagent tous à peu près la même vision. Alors j'ai essayé de prendre quelques ancrages qui me semblent essentiels pour comprendre pourquoi ils pensaient comme ça et pourquoi ils ont fait comme ça. Alors, je peux vous les énumérer rapidement, ce que j'ai noté en écoutant le film. Premièrement, le nucléaire égale intérêt vital. Ce sont les intérêts vitaux de nos pays. Donc, on ne discute pas là-dessus, puisque ce n'est pas discutable. C'est l'intérêt vital du pays, en termes énergétiques et en termes... Bon. Deuxièmement, il y a une logique extrêmement profonde qui a parcouru tout au long de cette histoire et qui se cristallise dans des événements graves. C'est le progrès. C'est le sens de l'histoire, c'est donné. Il ne peut y avoir que du progrès, puisque c'est comme ça depuis l'invention du feu. Donc, c'est la logique normale. Troisième élément, la sécurité dans nos esprits, c'est quand même quelque chose qui, même si ça va mal, ça restera marginal par rapport au système. Et donc, si je me cale sur les statistiques, si je reste bien linéaire, si je refuse évidemment tout envoler aux extrêmes qui ne serait pas rationnel, la sécurité, c'est quelque chose de marginal. Et donc, il faut le prendre comme tel. Et donc, s'il y a de la nécessité économique ou d'intérêt national, la sécurité, c'est quand même... Bon, on verra ça dans un deuxième temps. Il y a des pompiers pour ça. Quatrième élément qui est structurant, mais dans tous les pays du monde, catastrophe égale risque de panique de la population. Donc attention à ce qu'on dit, la moindre donnée non favorable déterminera des mouvements sociaux absolument ingérables. Cinquième élément que je me suis dit, comme c'est un peu compliqué, on a quand même des grands prêtres là-dedans, des gens qui prennent sur leurs épaules... toute la vision et la mission politique, c'est ce qu'on a vu en France. Et d'ailleurs, l'ensemble du système est bien heureux d'avoir ces grands prêtres qui vont prendre la parole pour dire, c'était le plus clair dans le cas de la France, mais ça percole un peu dans l'ensemble du document. On a, autre élément, des opposants de combat qui sont là. Et c'est intéressant ce que dit Joschka Fischer. Ils ont voulu immédiatement vendre leur politique et ça n'a pas été forcément la meilleure stratégie. Et donc, reblocage avec les autres et chacun joue son blocage. Et donc, en gros, tout le monde est satisfait parce qu'on ne pourra pas inventer particulièrement. Donc, on va à un affrontement polarisé. Et ça finit par être... attendez, vous êtes à côté de la plaque. Là. On n'a pas été à la hauteur. Ni des événements, et c'est la conclusion du film, hein, échec politique. Il aurait fallu prendre ça en compte et savoir comment on pouvait le prendre en compte. Et ça m'a rappelé ce que Carter avait fait sur Smile Island, où on avait également, mais à une échelle bien moindre, des techniciens aux abois, des politiques qui disent « Attendez, mais je voudrais peut-être faire quelque chose ». Le gouverneur de Pennsylvanie qui dit « Ils ont évacué 1 million de personnes sans me le dire ». Enfin, je l'apprends dans la radio que j'ai décidé d'évacuer 1 million de personnes. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et avec la décision de Carter à la fin de nommer une commission d'enquête, et ça c'est vraiment fabuleux, dont la composition refléterait la composition de la société américaine. Donc la perception immédiate que là on joue sur de la référence à la citoyenneté fondamentale et pas sur une technologie, et pas sur une technique d'abord. On n'est pas que des techniciens là-dedans. Et cette dimension politique qui est bien soulignée dans le film, ça me semble une ligne vraiment intéressante. Mais nos consciences à la fois scientifiques, nos perceptions, on voit bien que c'est pas cohérent avec les enjeux. Donc à chaque fois, il y a un problème. On se demande pourquoi il y a un problème. On n'en sort pas les uns, les autres restent bloqués. On voit bien une société faire des microcosmes, des ensembles qui ne sont pas faits pour traiter ça. Et à la fin, il n'y a que les victimes qui disent « Mais attendez, mais nous, on avait un problème. » Alors, je ne sais pas ce qu'il en est effectivement des chiffres, parce que les études ont commencé 10 ans après. Enfin, tout ça, c'est un peu flou. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien ce que c'est qu'un terrain qui n'est pas vraiment bien compris, investigué et tenu au niveau de difficulté que c'était. Donc, à la sortie, ça ne vous donne que des choses vraiment stupéfiante.
Mais vous diriez qu'à venir, il faut sans doute prendre en considération une pression de l'opinion qui, avec les outils précisément de Twitter et autres, va aller s'accentuant auprès de ceux qui ont jusque-là, pour le moment, eu le discours dans les mains.
Pour moi, Tchernobyl a ouvert une brèche et Fukushima, là, c'est le tsunami. Et je pense qu'il y a deux éléments majeurs qui vont structurer l'avenir immédiat. C'est premièrement, quand je disais tout à l'heure que la sécurité, c'est quelque chose de marginal quand même. Ça n'atteint pas le système. Bon, on l'a vu sur la finance que ça donne. C'est plus marginal du tout, c'est systémique. Dans ces risques vitaux, ils deviennent vraiment au cœur de la tenue de ce système. Et deuxièmement, en termes de citoyens, on est en train de passer d'une société qui, globalement, pouvait fonctionner dans un modèle hiérarchique. Beaucoup de gens n'étaient pas contents, mais en gros, ça fonctionnait. Command and control, comme disent les Anglais. Un système dans lequel la citoyenneté va venir par le bas, avec tous ces outils, Facebook et autres, où a été démontré, là je saute de le côté de la Méditerranée, qu'en 5 jours, aucun pouvoir ne tenait. Et donc, cette fluidité d'information, cette rapidité avec laquelle ça peut dérouler, je vois ce qui a été fait, pardonnez-moi, sur un exemple très très précis et très petit, sur Marseille, sur les ordures à Marseille, de deux informaticiens qui ont fait ça en plus de leur boulot, ont créé un site qui s'appelle merdinemarseille.com, où chacun peut aller faire des photos en bas de chez lui, et il met ça sur des cartes Google. Donc, c'est de l'hyper-proximité et joignable temps réel par l'ensemble du monde. Et ils disent, cet outil-là, je peux le donner à n'importe qui, dans n'importe quel point de la planète, et en une demi-heure. Donc on est avec des outils qui, aujourd'hui, vont bousculer toute cette logique. J'ai de l'information, je la valide, si c'est rassurant, je la donne. Si c'est pas rassurant, je dis autre chose. On n'est plus là-dessus. Donc en termes de pertinence, de poids des risques aujourd'hui, de perception du caractère vital des risques et de logique citoyenne, nous avons franchi là vraiment deux seuils qui vont être absolument important. Et Fukushima, là, ça le met clairement dessus. Et on va voir, en gros, des difficultés à rester sur des logiques habituelles. Mais sans perdre non plus de vue que c'est pas seulement dans l'hyperlocal qu'on va pouvoir trouver les solutions. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles techniques qui vont être importantes. Et là, il faut faire attention de ne pas partir sur une idée. Bah, écoutez, j'ai une bonne idée. Là, on s'est mis à 4 et on a une idée. Maintenant, on va faire que du solaire. Ce que je dis, c'est regardons là aussi les pièges. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, beaucoup ne pas passer à l'inverse de ce qu'on faisait avant. L'idée, c'est d'inventer sur ce terrain pour lequel on n'a pas la carte et il y a des failles un peu partout.
Patrick Lagadec, si l'on veut lire un peu plus complètement, pour compléter en tout cas son information, un ouvrage récent que vous auriez publié, vous pourriez peut-être nous en donner et le titre et l'éditeur.
Oui, j'ai publié avec Xavier Guillou La fin du risque zéro chez Erol. Mais je dirais aux gens, allez, comme les papillons et autres, butiner dans différents endroits et posez-vous des questions. Alors, si je peux faire un peu de publicité, on peut aller sur mon site, c'est gratuit, donc on peut y aller. Et puis aller voir...
PatrickLagadec.com, Lagadec comme ça s'écrit, hein. PatrickLagadec.net. PatrickLagadec.net.
On y arrive. Et après, on peut les choisir ce qu'on veut, quoi. Et aller là-dedans. Et ce qui est important, c'est d'avoir des questionnements ouverts. pour se faire son opinion et se dire où sont mes convictions et surtout, et maintenant, si j'avais une ou deux bonnes idées, mais en ne perdant jamais de vue, attendez, quel piège dans lequel il ne faut pas que je tombe. Par exemple, juste pour citer un point, quelqu'un m'appelait l'autre jour en disant « Écoutez, faites attention parce qu'en ce moment, si jamais on vire tous au solaire, attention si on se met tous à avoir des batteries panneaux, au plomb, si le pays entier est couvert de batteries au plomb, peut-être qu'on peut réfléchir avant d'avoir fait ça. Et alors le soleil, il y a peut-être d'autres moyens de gérer le solaire que de se précipiter tous sur des batteries au plomb pour être capable de faire le jour où on n'aura pas d'électricité, etc. Ou autre élément, si on décide d'aller dans telle direction, ça veut dire quoi en termes systémiques? Est-ce que je peux tenir une canicule en même temps qu'un blackout électrique, etc. Ce que je voudrais dire, c'est de se poser un peu ces quatre questions que j'évoquais. C'est de quoi s'agit-il? Et on est aujourd'hui sur des problèmes globaux de citoyenneté, énergie, développement, environnement. Tout ça, c'est un package global qu'il faut prendre en compte. Quels sont les pièges à éviter? Le piège à éviter, probablement pour moi, c'est soit qu'on dise, écoutez, on a toutes les solutions techniques, donc ne posez pas de questions, ou bien il n'y a pas de questions à se poser. Évidemment, la solution est là et que personne ne pose de questions, autrement ce serait du conservatisme. Avec quels acteurs on va jouer? Il y a les acteurs hyper locaux, les acteurs mondiaux, et tout ça, ça va se jouer, mais en plus avec beaucoup, beaucoup de surprises. Demain, qu'en sera-t-il des puces électroniques, enfin, etc., etc. Donc nous allons avoir des surprises, est-ce que nous sommes calés là-dessus? Et puis... la quatrième question, qui est toujours celle que je préfère, c'est maintenant quelles initiatives? Initiatives au niveau international, au niveau national, au niveau local, au niveau hyper local. Qu'est-ce qu'on peut faire qui fasse sens, qui fabrique du tissu, du vivre ensemble? Et c'est là-dessus qu'on est attendu, je pense, aujourd'hui. Et pas seulement sur des choix techniques, c'est beaucoup plus large. Parce que demain, nous aurons autre chose que le nucléaire. Ça peut être dans n'importe quel registre. On l'a déjà vu sur la finance, on l'a déjà vu sur le bio avec les virus et autres. Ça peut être un mélange de tout. Nous sommes partis pour des mondes pour lesquels nous n'aurons plus les cartes, tellement nous avons quelque chose de complexe et qui génère de la complexité, de la surprise et donc de la nécessité à la fois démocratique, technique, économique, inventive surtout, et c'est là-dessus qu'il faut se préparer.
Patrick Lagadec, merci beaucoup d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Vous avez regardé pour nous le prochain documentaire qui est intitulé Le Nuage. Merci encore Patrick Lagadec et à bientôt. Rendez-vous sur TSR2 dimanche soir pour découvrir Le Nuage, Tchernobyl et ses conséquences, le nouveau documentaire d'Histoire Vivante, un film signé Karine Yourchif.
Histoire vivante proposée par Jean Leclerc, avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rocha et Valérie Danton. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet histoirevivante.rsr.ch ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez la première ? Il est 16h.